un podcast France Culture.
Deuxième jour de notre série sur les jeux de l'argent et du hasard. Après avoir tâté du flipper et du baby-foot dans les cafés de l'après-guerre, nous allons explorer le monde des paris sportifs. Depuis son ouverture à la concurrence en 2010, le marché des paris en ligne s'est envolé. Lors du mondial de football au Qatar, la finale France-Argentine a brassé à elle seule 51 millions d'euros de mise. Les joueurs sont de plus en plus nombreux, tout comme les risques d'addiction sur un marché qui cible en priorité la jeunesse précaire. Pour parler de l'économie des paris sportifs, nous avons invité Isabelle Falque-Perrotin, présidente de l'Autorité nationale des jeux, Pierre Rondeau, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès et auteur de cet ouvrage, Le Grand Foutoir, les dérives du football, raconté en 15 matchs paris aux éditions Solar, et Marie Trespeuge, sociologue, maîtresse de conférences à Sorbonne Université, chercheuse au groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne, une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le marché des paris sportifs en ligne continue son ascension. Il a littéralement explosé en moins de 15 ans, Isabelle Falque-Perrotin.
Plus ou moins. Effectivement, les paris sportifs, c'est le moteur de la croissance du marché des jeux d'argent. C'est aujourd'hui une activité qui représente 1,5 milliard d'euros de PBJ, c'est-à-dire de chiffre d'affaires des opérateurs, et l'essentiel du marché online du jeu d'argent. Donc c'est vraiment, je dirais, le carburant de la croissance du marché des jeux d'argent en France. Et ça, depuis quelques années, mais en accélération depuis 2-3 ans.
Une accélération depuis 2-3 ans, mais une croissance qui a commencé dès le début des années 2010, Pierre Rondeau.
Elle a commencé, oui, avec l'ouverture à la concurrence sur les marchés web, en tout cas online. Au moment de l'ouverture à la concurrence, ça a toujours été, si vous voulez, on pourrait y revenir, mais sur la construction historique du sport professionnel, les paris ont toujours eu une place importante, une place à part. Les gens ont toujours parié finalement sur des rencontres sportives. Au-delà du divertissement et du spectacle sportif, l'intérêt de regarder un match de football, de tennis ou autre est aussi l'intérêt du pari et du jeu. Donc ça a toujours existé et c'est vrai qu'effectivement la démocratisation, si je puis dire, en tout cas l'accès, la facilité de l'accès via des plateformes, via des applications, via l'usage du smartphone. Tout ça a démultiplié la croissance. Et vous l'avez dit, c'est vrai que sur ces 3 dernières années, le point d'impact aussi qui a été intéressant et qui a été observé, c'est l'impact du Covid. Le Covid a montré à quel point les gens étaient attirés, intéressés par ces jeux online, ces jeux sportifs. Certains même se sont découverts une passion pour les championnats slovènes qui avaient continué malgré les confinements en Europe parce qu'ils voulaient parier. Et ces paris ont effectivement permis, en tout cas cette ouverture aux paris, ont permis une démocratisation de l'acte.
Le secteur a en effet poursuivi sa croissance, malgré ou peut-être grâce à la pandémie, Marie Trespeuche, et malgré l'inflation. Comment est-ce qu'on explique cela ?
Alors, comment on explique que les joueurs jouent ? Tout simplement parce que y a des gains à la clé, en tout cas c'est la promesse qu'on leur fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'ouverture du marché à la concurrence, on a désormais 17 opérateurs agréés, alors qu'avant 2010, seule la Française des Jeux pouvait proposer des paris. Et donc cette offre est plus visible, plus diversifiée, elle permet de parier sur un très grand nombre d'événements et avec ce canal beaucoup plus facile qui est Internet, c'est-à-dire qu'on peut parier, à la différence du point de vente, chez soi, à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Donc ce sont ces promesses de gains, évidemment, qui créent le jeu et l'envie de parier.
Avec une année exceptionnelle pour ce marché qui était 2021, c'est pendant les grands événements sportifs que le secteur est le plus rentable, Isabelle Falque-Perrotin.
Alors, il n'est pas le plus rentable, mais il est le plus attractif. Il n'est pas nécessairement le plus rentable pour les opérateurs, parce que ça dépend si les joueurs gagnent. Mais en tout cas, il est le plus attractif pour les joueurs, parce qu'il crée un effet de loupe sur cette activité, et il attire énormément, effectivement, de joueurs. Mais je voudrais juste revenir sur le fait pourquoi est-ce que les gens jouent. En fait, on a organisé un sondage il y a peu de temps, pendant justement, après le Covid et au moment où les questions de pouvoir d'achat étaient extrêmement prégnantes chez les Français, et on s'est aperçu qu'un tiers des personnes intéressées considéraient que jouer au jeu d'argent était un moyen de compléter leurs revenus. Donc, si vous voulez, là, on voit bien qu'on est face à un nouveau comportement. On ne joue plus simplement pour s'amuser et pour avoir le frisson, entre guillemets, du pari, mais aussi parce qu'on pense rationnellement que ça va compléter ses revenus, ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Mais, vous voyez, c'est une des raisons, quand même, qui explique l'envolée de tous ces paris.
Alors justement, quelle est la part de rationalité économique dans le fait de parier de l'argent à la fin du XVIIIe siècle dans ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations? Adam Smith observait déjà que les parieurs étaient toujours perdants. Écoutez. Le succès général des loteries nous montre assez que l'on exagère naturellement les chances du gain. On n'a jamais vu et on ne verra jamais une loterie au monde qui soit parfaitement égale ou dans laquelle la somme du gain compense celle de la perte, parce que l'entrepreneur n'y trouverait pas son compte. Dans les loteries établies par les gouvernements, les billets ne valent pas, en réalité, le prix que payent les premiers souscripteurs. Et cependant, ils sont communément revendus sur la place, à 20, 30 et quelquefois 40% de bénéfices. Le vain espoir de gagner quelqu'un des gros lots est la seule cause de la demande. Les gens les plus sages ont peine à regarder comme une folie ce fait de payer une petite somme pour acheter la chance de gagner 10 ou 20 000 livres, quoi qu'ils sachent bien que cette petite somme est peut-être 20 ou 30% plus que la chance ne vaut. Dans une loterie où il n'y aurait pas de lot au-dessus de 20 livres, mais qui se rapprocherait plus d'une parfaite égalité que les loteries publiques ordinaires, les billets ne seraient pas aussi courus. Voilà un texte déniché par Diane Devancet de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspire cette lecture d'Adam Smith, Pierre Rondeau, vous qui êtes économiste?
Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir citer Adam Smith sur un sujet dédié aux paris sportifs. sur la question, et c'est vrai que ça soulignait là-dessus, sur, j'irais, l'irrationalité, en tout cas l'absence de rationalité de la part des joueurs, qui, comme vous l'avez précisé, selon un sondage, un tiers affirmerait que ça soit pour des raisons de pouvoir d'achat, de pouvoir augmenter, améliorer sa situation via les gains espérés. C'est de rappeler que dans tout ce qui concerne les jeux et les paris, l'espérance du parieur est nulle, voire négative. Dès lors qu'il y a une organisation derrière et une entreprise à but lucratif qui va chercher à mettre en place et à vendre ces jeux, c'est tout l'intérêt qu'elle a est de gagner de l'argent. Donc si elle gagne de l'argent, c'est que forcément il y a des perdants, et les perdants en l'occurrence sont les joueurs. Il me semble, à vérifier au niveau des chiffres, mais il me semble que le gain moyen des joueurs de long terme sur les paris sportifs est inférieur à 300 €. Il y a très peu finalement de gains, il y a très peu finalement de fortune réalisée dans le cadre du jeu, mais il va avoir cette préférence, cet attrait, ce goût pour une forme d'irrationalité, de jouer, de prendre un risque et d'espérer d'ailleurs pouvoir gagner. L'autre élément, c'est vrai, quand on se posait la question pourquoi les joueurs jouent-ils et pourquoi il y a une augmentation du jeu, c'est aussi la démocratisation de ce qu'on appelait les paris événements. Les paris événements, c'est les paris qui ne peuvent pas être organisés sur du présentiel dans un bureau de tabac, mais qui sont faits directement sur smartphone. On parie pendant le match, sur les 10 prochaines minutes, qui va marquer, qui va mettre une passe décisive, comment le but va-t-il être marqué. Et c'est toute l'intensité qui va exciter, si je peux dire, le joueur irrationnel, qui va croire qu'il va pouvoir gagner, qu'il va croire qu'il va pouvoir générer un profit, alors que l'immense majorité des joueurs sont perdants.
On joue parce qu'on espère un gros gain, et aussi peut-être parce qu'on est valorisé par l'idée d'expertise autour de ces matchs, Marie Trespeuch.
Oui, je pense qu'il faut quand même bien différencier les paris sportifs des autres jeux, hein, par rapport à un jeu de loterie où le hasard est total. Il y a dans le pari sportif l'idée d'une maîtrise, d'une expertise avec celui qui sera le devin dans son groupe, qui permettra de dire j'avais bien deviné. Ça lui donnera une sorte de capital de respectabilité au sein de son groupe. Donc il y a à la fois la volonté de gagner de l'argent, certes, mais aussi cette idée que si on devient expert dans son sport, on pourra mieux maîtriser la compétition et donc mieux deviner, mieux pronostiquer, et donc obtenir aussi plus de respect au sein de ces groupes de pairs. Et je pense qu'on y reviendra peut-être, mais en fait les joueurs jeunes regardent les matchs ensemble et pronostiquent aussi ensemble. Et donc, c'est aussi des logiques de groupe hein, qui s'observent désormais.
Mais est-ce que le plaisir du jeu se situe dans le gain monétaire, puisqu'on a vu qu'il était quand même assez rare, ou dans la prise de risque, Pierre Rondeau ?
Je pense que si on avait vraiment une étude sociologique du profil du joueur, et spécifiquement du joueur de paris sportif et pas du joueur de jeu de hasard, il doit avoir une distinction à faire entre le joueur de casino, de poker, le joueur de loto et le joueur de paris sportif. Effectivement, le joueur de paris sportif, il va rajouter à sa prise de risque un sentiment de connaissance. Il va savoir pourquoi la formation, la tactique employée pour un match de foot, le niveau des joueurs, il va observer pendant une semaine au préalable l'entraînement, la physionomie, le contexte. Il va pouvoir supposer que, par exemple, ce soir, on a un match de Ligue des Champions, les jeunes en parlent depuis une semaine, se disent, voilà, concrètement, qui va jouer, qu'est-ce qui se passe avec Mbappé, qu'est-ce qui se passe avec l'entraîneur. Il y a ce sentiment de vouloir maîtriser l'irrationnel. Alors que le poker, c'est du hasard, la roulette, c'est du hasard, le loto, c'est du hasard, une chance sur plusieurs millions. Là, ici, dans le comportement du joueur, est-ce que c'est prise de risque seule ou volonté de contrôler l'irrationnel, il y a ce sentiment-là de dire « je suis compétent ». Et au-delà du fait, effectivement, du fait de pouvoir s'associer au groupe et à ses proches, c'est surtout avoir une volonté de contrôler l'incontrôlable.
Les paris sportifs qui, évidemment, ne sont pas nouveaux dans les années 80, ont joué déjà au loto sportif.
Il faut connaître le sport et puis bon, suivre le sport surtout, il faut le suivre, hein, c'est tout.
Oui, mais quand je parle de culture sportive, en plus, il faut qu'elle soit éclectique, il faut suivre tous les sports.
Je suis tous les sports. Je lis la page de sport tous les jours, de A à Z, même si ça soit de la voile, n'importe quoi, je suis les sports, c'est pour ça. On a beaucoup plus de gains, par exemple, pour l'auto-sportif que d'avoir le tiercé. Parce que le tiercé, si c'est les trois favoris, ça va faire 30 francs dans le désordre ou 45 francs dans l'ordre, tandis que là, on peut gagner des millions.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Nous continuons à parler du marché des paris sportifs avec Isabelle Falque, Pierre Autin, Marie Trespech et Pierre Rondeau. Les paris sportifs se sont développés, Pierre Rondeau, à mesure que le sport se professionnalisait.
Oui, je pense que véritablement les paris sportifs sont conjointement liés au développement du sport professionnel. Même on peut remonter au début du 19e, 20e siècle, quand on a commencé à légiférer, à structurer le sport professionnel en Angleterre ou ailleurs, on a toujours eu des gens qui, autour des terrains, autour des stades, organisaient des paris, mettaient en place des paris. Le joueur, finalement, alors officiellement, il va se déclarer comme étant fan de sport, mais parfois, on peut se poser la question, est-ce qu'il vient pour le spectacle sportif en tant que tel, ou c'est le spectacle sportif qui l'attire pour le gain monétaire ? Le sport pro a pu se professionnaliser et a pu rémunérer ses athlètes, parce qu'il y avait un attrait du public à travers la billetterie, attrait du public qui attirait des annonceurs, mais le public venait aussi pour pouvoir parier et espérer le gain monétaire. Donc je pense que le triptyque billetterie, sponsoring, pari a constitué le développement, en tout cas le processus de développement du sport professionnel en Europe.
On a évoqué l'ouverture à la concurrence sur Internet en 2010 des jeux d'argent et de hasard. Pourquoi cette décision a-t-elle été prise ? L'État français a été contraint par Bruxelles de libéraliser le secteur, Marie Trespech ?
Alors contraint, oui, contraint en tout cas, ça a été une négociation dans les années 2000. L'État français a été un peu pris à partie par des associations au moment de l'ouverture qui estimaient que l'État était jugé parti, c'est-à-dire qu'il gagnait à la fois de l'argent sur les taxes sur les jeux d'argent et en même temps devait réguler le secteur. Et donc on estimait que ce double rôle n'était pas tout à fait confortable. Donc, par ailleurs, donc l'Europe évidemment s'en est mêlée, hein, puisque il s'agissait d'ouvrir comme d'autres secteurs, les jeux à la concurrence, en disant qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on ait des monopoles. Après différentes négociations, en essayant quand même de défendre les monopoles, on ouvre à la concurrence en 2010 avec cet argument du pragmatisme, hein, c'est-à-dire une offre illégale existe aujourd'hui en ligne, elle est là, les joueurs français jouent sur des sites illégaux, peut-être rendons cette offre légale avec des agréments, avec la possibilité aussi de taxer ces opérateurs et nous pourrons les réguler et donc aussi protéger les joueurs. Donc c'est ça qui s'est joué à la fin des années 2000 et qui a donné lieu à cette libéralisation.
Isabelle Falque-Bérotin, sur effectivement cette volonté d'encadrer une pratique qui existait déjà.
Je crois que c'était effectivement la motivation principale, c'était de faire re-rentrer dans la régulation quelque chose qui existait au niveau des pratiques, mais qui finalement ne rapportait rien à l'État. et qui laissait les joueurs dans un état de non-protection par rapport à des pratiques éventuellement contestables des opérateurs. Donc ça a été la principale raison de la libéralisation de 2010. Et puis ensuite, on est allé en 2019 avec la loi Pacte, où là, l'objectif de protection des joueurs a été vraiment mis au centre de la régulation avec la création d'une nouvelle autorité. Donc c'est effectivement deux phases d'évolution du marché, notamment des paris sportifs, qui sont un peu d'inspiration différente.
Avec une évolution évidemment très importante dans le contexte de l'arrivée d'Internet. Pierre Rondeau, à ce moment-là, on a commencé à parier en direct. Tout cela a contribué à l'essor de ce marché.
Globalement, l'économie du web, l'économie 2.0, a modifié, a bouleversé totalement les comportements. On parle ici des paris sportifs, mais à tous les niveaux, les comportements sont modifiés via l'accès aux différentes applications, dans la consommation, dans l'usage de films, de séries, de commerce globalement, l'économie 2.0 a totalement bouleversé les habitudes. Et c'est vrai qu'effectivement, les paris sportifs institués sous forme d'applications via des smartphones permet à ce que voilà, ce soit totalement banalisé, que ce soit d'une facilité sans nom à parier pour n'importe quoi et à n'importe quel moment. Il y a une différence sur le présentiel, aller dans un bar tabac pour aller parier. S'il faut se déplacer, il faut sortir de chez soi, il va fermer avant un match, il va fermer à 18h, 19h, vous ne pourrez plus derrière parier. Là aujourd'hui, à n'importe quel moment, sur n'importe quelle rencontre dans le monde entier, ça de façon totalement légale, je peux parier. Et je peux parier sur tout et n'importe quoi. Je l'ai dit, il y a les paris sur la victoire, la défaite, mais il y a aussi les paris événements sur qui va marquer, quand est-ce qu'il va marquer, comment il va marquer. Donc c'est vrai que c'est ce qui va aussi, on pourra en parler, sur l'augmentation de la pratique de la jeunesse, les 18-25 ans, et même si on parle des 18 et que c'est interdit aux mineurs, on sait qu'il y a une très grande pratique chez les mineurs, les 15-17 ans, c'est cet accès facilité. En plus, avec de la publicité abondante qui va nous faire croire que vous pouvez vous enrichir via les paris sportifs, avec des célébrités derrière qui sont affiliées à coller pour attirer le jeune et lui donner le sentiment de performer dans son comportement. Mais cette technologie a totalement démocratisé la chose, avec des conséquences négatives et des conséquences positives, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a un effet de ruissellement via les taxes affectées, on vient financer le sport amateur, on vient soutenir les clubs de foot et de sport, on vient soutenir toute une économie. Voilà, et donc c'est à débattre sur la régulation, mais ce qui est sûr, c'est que l'économie 2.0, sur spécifiquement les paris sportifs, a bouleversé les pratiques.
Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 17 opérateurs de paris sportifs, 16 opérateurs de paris sportifs qui existent aujourd'hui en France? Les sociétés de jeux en ligne se sont renforcées, notamment en s'implantant dans des paradis fiscaux dans les années 90, Marie Trespeau.
Oui, ça a été un peu le moteur hein, dans les années 90, avec les débuts du web, donc on voit fleurir toute une offre s'implantant à Gibraltar, à Malte, dans différents paradis fiscaux, et donc pouvant arroser l'ensemble de la clientèle européenne d'offres de paris, de poker, de machines à sous, hein, de toutes sortes de jeux, qui ne sont pas tous ouverts à la concurrence aujourd'hui. Et donc ces opérateurs, quand même, dans les années 2000, on commençait à demander à devenir légaux, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas faire de publicité. Et donc, ne pas pouvoir faire de publicité, c'est ne pas être visible sur le marché. Et donc, c'est ça qui les a fait un peu, on pourrait dire comme ça, rentrer dans le rang en 2010, quand ils ont dû demander l'agrément et donc se plier à toutes sortes de règles qui étaient celles de l'État français.
Et aujourd'hui, il y a une logique de cotation qui est comparable à celle qu'on peut observer sur les marchés financiers, Pierre Rondeau.
Oui, il y a une régulation à ce niveau-là qui est imposée légalement. Et quand la France a ouvert à la concurrence, elle a effectivement plié à des exigences de régulation, de vérification et de contrôle les prestataires de paris sportifs.
Et effectivement, c'est-à-dire que les 17 opérateurs sont effectivement agréés par le régulateur au terme d'un examen très complet, à la fois technique, de leur plan anti-addiction, de leurs mesures anti-blanchiment, de leur stabilité financière. Donc on s'assure, entre guillemets, que l'offre qui va être faite à partir de cet opérateur est crédible et ne va pas tout d'un coup se dissoudre en laissant tous les parieurs le bec hors de l'eau. Mais je dirais, c'est ça, c'est, Ce qui explique, me semble-t-il, véritablement le développement du marché, c'est le fait que progressivement, en fait, s'est créé un écosystème autour de ces opérateurs, qui est un écosystème numérique fait d'influenceurs, de publicités, de réseaux sociaux, etc. Et que tout cet écosystème est mobilisé au profit de la promotion de l'offre du dit opérateur. Donc, si vous voulez, on n'a plus simplement un joueur, un opérateur. On a un joueur face à un éventail de sollicitations numériques qui peuvent arriver via toute une série de canaux. Et c'est ça, je crois, le gros changement dans les 5 dernières années.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet de vase communicant entre les opérateurs, les diffuseurs des rencontres sportives et les joueurs. C'est que ces joueurs regardent ces rencontres sur des chaînes, des diffuseurs qui payent des droits assez importants pour avoir le droit de diffuser ces rencontres. Et ces mêmes diffuseurs ont besoin des opérateurs qui vont afficher leur publicité avant, pendant et après les matchs devant le joueur en question. Donc il y a tout un effet de vase communicant entre l'opérateur, le diffuseur et le joueur.
J'y trouve un réel plaisir. L'assimilation à une drogue est pas complètement fausse. C'est monter d'adrénaline, cette joie, enfin voilà, on oublie à côté. Si on a eu une mauvaise note à l'école, si notre mère nous a engueulé, on a gagné notre pari, on est content.
Tous les sites sportifs, la première fois que tu crées un compte chez eux, ils te donnent 100 euros. D'utilisation gratuite, donc ça t'incite à jouer. Donc au début, je me suis inscrit sur tous les sites pour avoir tous les 100 euros gratuits. Et après, avec ça, j'ai fait de l'argent, et des fois où je perdais, des fois où je gagnais. Et je me disais que c'était encore plus facile parce qu'ils donnaient 100 euros dès le début. Donc si tu faisais un bon pari sportif, tu pouvais gagner 400, 500 euros. Et si tu le perdais, c'était pas ton argent.
Voilà des témoignages recueillis par Alice Babin pour Les Pieds sur Terre sur France Culture et par France 2. Qu'est-ce qu'on peut dire du profil des parieurs sportifs, Marie Trespeuch?
Alors le profil des parieurs sportifs est déjà très 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 massivement masculin. C'est 85% d'hommes. Ce sont des hommes relativement jeunes qui ont entre 18 et 34 ans. On sait qu'il y en a des plus jeunes. C'est des hommes qui vivent dans les villes ou dans les espaces périurbains et qui aiment le sport. Donc c'est ce qu'on disait aussi. C'est des gens qui jouent parce que par ailleurs ils aiment le sport et que ça crée une sorte d'émulation, de piment supplémentaire quand ils regardent les matchs qu'ils adorent par ailleurs.
Isabelle Falque-Pirotin?
Non, je crois que effectivement c'est un bon profilage du joueur de paris sportif. On peut ajouter que en gros il joue à peu près 1800 euros par an, mais que son PBJ est effectivement de 300 euros par an, c'est-à-dire que en moyenne il perd 300 euros par an. Il est jeune, il est urbain, il est souvent de catégorie socio-professionnelle plus modeste. Et c'est pour ça d'ailleurs que les opérateurs ont dans leur publicité, et ça a été dit par Pierre, beaucoup ciblé les jeunes des quartiers populaires, de manière à véritablement installer le pari sportif dans ces milieux comme un moyen de s'évader de sa condition, de gagner de l'argent et d'espérer autre chose.
Oui, alors effectivement, cette jeunesse précaire semble être la cible privilégiée des opérateurs et des annonceurs. On a pu entendre parler d'un marketing de la misère et ça a fait polémique, en particulier pendant l'Euro de football en 2016, Pierre Rondeau.
Il me semble que le slogan, c'était « Mets à l'abri ta daronne ».
Oui, tout pour ta daronne.
Tout pour ta daronne.
C'était tout pour ta daronne.
Voilà, il y a eu... Il y a eu
que nous avons interdit comme publicité.
Exactement, il y a eu... C'est vrai que le marketing des paris sportifs... Alors, maintenant, me semble-t-il que la règle a été imposée, que ça a été changé, qu'il n'y a plus ce côté contre-vérité à faire croire aux parieurs et aux joueurs que vous pourriez effectivement monter sur l'échelon de la vie sociale et l'échelon de la notoriété, de la hiérarchie sociale. Mais pendant très longtemps, on a laissé faire croire aux joueurs qu'ils pourraient... mettre effectivement à l'abri leur mère, en l'occurrence, et pouvoir s'enrichir, et ces joueurs étant essentiellement issus effectivement de quartiers périurbains, de quartiers populaires, et on leur donne le sentiment qu'ils seraient gagnants parce que connaisseurs du football, parce que spécialistes du sport, parce qu'ils y connaissent et ils suivent au quotidien ces rencontres, ces matchs, ces affiches, ils devraient pouvoir être bénéficiaires et gagner de l'argent sur ces paris sportifs.
Marie Trespeuch?
Alors, je crois que, évidemment, l'enrichissement est au cœur, hein, de ces campagnes de publicité. Et on a vu, voilà, mis en scène ce petit jeune de banlieue qui gagne un pronostic et qui donc est porté au nu au sein de la cité, qui est vraiment porté par une autre personne.
Ah oui, ça, c'est une autre publicité.
C'est une autre campagne, ouais. Ça, de 2019, dont on ne va pas citer l'opérateur, parce qu'il a déjà pas mal capitalisé là-dessus.
Donc, une héroïsation.
Mais alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que, à la différence de publicité de la Française des Jeux qu'on voyait dans les années 90 et qui sont restées très dans les mémoires avec des gens qui disaient au revoir à leur président de société parce qu'ils allaient arrêter de travailler et qu'on retrouvait les doigts de pied en éventail sur des plages de sable blanc, là c'était vraiment le changement de vie qui était mis en valeur. Ils allaient devenir millionnaires, ils allaient complètement transformer leur vie, alors que là, avec ces publicités-là, on dit, écoutez, au fond c'est dans votre groupe que vous allez pouvoir gagner en respect, en pouvoir, et que vous allez être adulé, qu'on va vous respecter, en fait. Et donc, il y a la question de l'enrichissement, mais je pense qu'il y a encore autre chose, et c'est pas le changement de vie qui est mis en valeur dans ces campagnes, et c'est ça qui touche particulièrement bien, en fait, la population donc de ces jeunes périurbains.
Sachant qu'il faut rappeler les chiffres, et je vous donne la parole, Isabelle Falquier-Perrotin. Oui. Selon vos données, d'ailleurs, celles de 2021 de l'ANJ, c'est 0,03 de la totalité des joueurs qui avaient gagné plus de 10 000 euros en un an.
C'est-à-dire que en gros, c'est 1 000 joueurs. Mais pour en revenir à la situation en 2021, l'Euro de foot, il y a eu véritablement une prise de conscience, à la fois du grand public sur les méfaits, entre guillemets, du pari sportif lorsqu'il était excessif, et aussi des opérateurs en réalisant qu'ils étaient probablement, en termes de pression publicitaire, allés un cran trop loin. Et donc à partir de là, on les a réunis, on a beaucoup travaillé avec les uns et les autres, et on a pu leur faire signer des chartes de modération, à la fois sur le contenu des publicités, parce qu'il y avait tout un débat aussi sur quel type de pub est autorisé, quel type de pub ne l'est pas, et sur le montant, la quantité de publicité acceptable. Ça a relativement bien fonctionné. Pour vous donner un exemple, par exemple dans les spots à la radio, à la télévision, ils ont accepté de passer de 4 à 3 spots publicitaires en faveur des jeux d'argent, donc de diminuer l'intensité publicitaire à la télévision. Ils ont accepté la même chose en termes de marketing numérique. En matière de contenu, ils ont également fait un pas en arrière, et dans les dernières années, on a vu quand même régresser les publicités les plus exacerbées en termes d'excitation, etc. Donc, si vous voulez, je crois que l'écosystème des jeux d'argent se rend compte que maintenant, ils ont une responsabilité devant l'opinion publique, compte tenu de l'importance qu'a pris leur pratique.
Vous parleriez, vous aussi, d'une prise de conscience avec l'Euro 2016, Pierre Rando, des publicitaires, des annonceurs et des médias.
Non, mais je me pose la question, justement, vous parliez effectivement de ces discussions et de ces chartes mises en place pour effectivement imposer, en tout cas contrôler et légiférer sur la quantité de publicité et le poids du marketing. Mais ce qui est intéressant, on en revient sur l'objet même du pari sportif, ça a trait directement au sport. Et le sport, par définition, étant bien placé pour le savoir, on peut en parler tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement au loto, où le loto, il y a un tirage et merci, au revoir. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'explication sur la tactique, l'enjeu, la physionomie. C'est un tirage au sort, merci, au revoir.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a de la publicité indirecte tout le temps, finalement.
Oui, et en fait, ce que je constate sur Internet, c'est que maintenant, ces opérateurs organisent directement des chaînes, des émissions de télévision, enfin, sur Internet, sur YouTube ou ailleurs. Ils organisent des programmes, du contenu sportif, où ça va débattre pendant des heures et des heures sur le match, avec derrière, en très gros, le slogan de l'opérateur. C'est en soi la publicité.
Bien sûr.
Alors effectivement, bien sûr, ils se sont limités sur le marketing, la publicité à la télévision, à la radio, parce qu'effectivement, exigence et devoir de mensuétude. Mais derrière, ils profitent de l'objet sportif pour organiser des heures et des heures de débat.
Isabelle Falquier-Perrotin.
Vous avez tout à fait raison, et je n'ai pas dit que l'équilibre était atteint. Et effectivement, nous, au bout de 3 ans d'exercice de régulation, on considère qu'il est probablement utile d'aller au-delà des outils législatifs que nous a octroyé le gouvernement et le législateur à travers la loi Pacte, et de permettre une restriction publicitaire plus importante que celle que nous pouvons faire, je dirais, à droit constant. Dans la plupart des pays européens, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme des cases. Fermer des cases, ça veut dire interdire la radio ou la télévision, ça veut dire limiter la publicité digitale, peut-être sur une tranche d'âge particulière, 18-24 ans, qui est probablement la tranche d'âge la plus vulnérable en matière de jeux d'argent. Ça peut être aussi de travailler effectivement sur le sponsoring. Nous avons travaillé sur le sponsoring, mais on s'est bien rendu compte que... on n'avait pas nécessairement énormément d'outils légaux d'intervention. Or, qu'est-ce qu'il se passe? On voit aujourd'hui des compétitions qui sont nommées selon un opérateur de jeux d'argent. On a des stades, des infrastructures qui sont nommées d'après un opérateur. Il y a des sponsors directs. Enfin, la FDJ, c'est de notoriété publique, et sponsor premium des JO. Donc, si vous voulez, se crée l'idée que sport et jeux d'argent... c'est dans le fond superposable. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose à faire. Dans un certain nombre de pays, ils ont carrément interdit le sponsoring par des opérateurs de jeux d'argent.
Et alors, quid de cette possibilité d'interdire le sponsoring, d'interdire la publicité en général?
Alors, d'interdire la publicité, nous y sommes pas favorables, parce que qui dit absence totale de publicité dit risque que l'offre illégale, en réalité, se donne des ailes et qu'elle soit la seule connue et que finalement, ça ne soit pas favorable aux joueurs. Maintenant, on peut restreindre plus la publicité, et sur le sponsoring, on peut considérer que le sponsoring qui rapporte aujourd'hui 42 millions d'euros au sport, 2% du sponsoring total du sport, si vous voulez, c'est pas non plus l'élément crucial du financement du sport.
Oui, puis interdire la publicité, ça poserait évidemment problème aux chaînes de télé.
Oui,
sur la publicité télévisée.
Il y a aussi, effectivement, sur la publicité télévisuelle, à la télévision, quand on regarde un match de foot ou d'un autre sport sur un diffuseur privé par abonnement, on voit très bien qu'avant, pendant et après le match, c'est essentiellement de la publicité sur des paris sportifs. Et c'est vrai que si on commençait à vouloir interdire totalement et à 100%. Du côté des diffuseurs, il y aurait la question de la capacité à rentabiliser l'investissement des droits de diffusion. C'est un autre sujet, mais c'est intimement lié. Les droits de diffusion, c'est ce qui font vivre les clubs de sport et plus précisément de football. Sans ces droits de diffusion qui sont actuellement en renégociation pour la période 2025-2029, ou avec une restriction, une réduction de ces droits de diffusion, ça pourrait porter atteinte à l'économie des clubs professionnels et indirectement, parce qu'il y a beaucoup de taxes affectées, à l'écosystème du sport amateur et du foot amateur. Mais il y a aussi la question, ne pas interdire pour pouvoir avoir un retour sur investissement des gains monétaires pour financer et abonder directement le sport amateur.
Marie Trespech, quel est votre point de vue? Des progrès ont été faits en matière de régulation de la publicité, mais il faut aller plus loin?
Oui, il y a des progrès. Et puis c'est vrai que l'initiative de 2021 de l'ANJ avait été, doit être quand même saluée. Et puis quand on revient sur les campagnes publicitaires dont on a parlé tout à l'heure, elles s'adressaient à ces jeunes de banlieue, pour le dire un petit peu prosaïquement. Et je pense que l'ANJ alors c'est pas pour jeter des fleurs à Madame Pierrotin qui est juste à côté de moi, mais la campagne T'as vu, t'as perdu, qui était une campagne en ligne, qui a été à mon avis, qui a visé juste, hein, parce que justement cette campagne a pris à revers les opérateurs en ligne en utilisant les codes qui sont des jeunes, en utilisant le rap, de la musique, quelque chose de très rythmé, assez beau d'ailleurs. Enfin, je trouvais que c'était un clip formidable. Et donc je pense que ça c'est une vraie avancée. Et je crois qu'on en parle.
Ben justement, on va entendre un extrait de ce clip.
T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as joué, t'as joué, t'as joué, t'as perdu. Grosse cote, grosse thune, grosse poudre aux yeux. 200 balles à l'inscription. Fini la vie de Chico. Prêt à troquer le scooter pour la féfé. Le quartier pour une Ticar. À devenir riche sur un all-in. Dégaine la pluie et c'est cheaper. Dans le stade, scène de liesse. Dans ta poche, pas de liasse. Toi qui pensais te faire des thunes en un clic, c'est tes économies qui claquent. Allô maman, désolé. J'ai besoin de pesos. Tout pour prendre des euros. Même à la daronne. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. Tu comprends pas, car dans les pubs, on t'a promis mon émerveil. Au final, tout ce que tu récoltes, c'est de grosses dettes de sommeil. Tu pensais que t'allais tuer le game. Tout ce que t'as gagné, c'est la shame. Dans le pari, comme au foot, le contrôle, c'est la base où tu peux dire adieu à la fame. Regarder un match avant, c'était un plaisir. C'est devenu un enfer. Croire que la chance, elle va tourner, que tu peux te refaire. Au final, tu repères. Endetté pour 18 ans, alors que t'as même pas 18 ans. scotché devant ton écran. Le pari devient stupéfiant. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu.
Samedi soir, la cote est à 3. Toc, 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 c'est les huissiers. Perdre sa thune dans le money time. Perdre sa vie à l'appareil. On peut dire bye bye à la quiche. T'as un pari qui fera une croix sur livret. J'ai pas coché millionnaire. Pro des paris, j'finis pareil. T'as vu, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. Tu gagnes et tu perds et tu gagnes et tu perds et tu perds et tu perds et tu perds tes repères. Premier pari, c'est gratuit. Fidéliser les Yankees. Si t'as pas compris, c'était quoi la combine?
T'as perdu.
T'as vu, t'as perdu, le clip de prévention de l'Autorité Nationale des Jeux diffusé en 2022. Vous pouvez nous en dire un mot, Isabelle Falque-Pérotin, vous qui êtes présidente de l'ANJ.
Écoutez, merci de l'avoir diffusé parce que nous, on était très, très excités par ce clip qui a très bien marché sur les réseaux sociaux puisqu'il y a eu plus d'1,5 million de vues sur YouTube. Et surtout, au-delà de ça, qui a suscité véritablement la mobilisation et l'intérêt de tous les quartiers, de toutes les associations, des rappeurs qui ont été associés. Et en fait, je dirais que ce clip s'est presque fait malgré nous. Au départ, on avait probablement une vision plus modeste parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent à l'ANJ. Et au fur et à mesure, se sont agrégés toute une série de gens autour de l'idée « ça vaut la peine de faire passer ces messages-là, ça déconstruit des fausses croyances et dans le fond, nos jeunes méritent mieux ».
On peut parler aussi de la mobilisation en Seine-Saint-Denis pendant le Mondial de foot en 2022 qui avait remplacé justement ces slogans « Tout pour la Daronne » ou « Grosse cote, gros gain, gros respect » par « Retour chez la Daronne » ou « Grosse oui. mise, grosse perte, grosse galère ». Il y a eu une prise de conscience aussi des associations, des influenceurs sur
Mais
Internet.
Je pense nécessaire aussi parce que pour rappeler que voilà, c'est une réalité, il faut arrêter de se voler la face. Vous ne pouvez pas vous en sortir en ne misant que sur les paris sportifs. Cette légende de nous faire croire que parce que vous allez parier et réussir, vous allez pouvoir mettre à l'abri votre mère, vous allez pouvoir vous enrichir et dépenser sans compter, ça a été rappelé. Donc, mid-joueur, vous dites qu'il y a une plus de 10 000 euros. Donc, c'est pas comme le loto. Le loto, si on gagne, c'est 1 million, 2 millions, 10 millions, 15 millions. Là, c'est des toutes petites mises et tout petit gain. Donc, heureusement que les associations ont été interpellées, ont commencé à mettre des choses en place pour éviter, parce que ce genre de phénomène pourra construire de la dépendance, l'addiction et des comportements similaires à, effectivement, une drogue. On entendait dans un enregistrement tout à l'heure dans votre émission, quelqu'un qui comparait cela à la prise de drogue. On sait que le gain monétaire, de façon neurologique, le gain monétaire avec prise de risque provoque la même hormone qui est produite lors de la consommation de cocaïne. Donc voilà, c'est pour dire à quel point le plaisir que ça peut procurer, mais l'addiction que ça provoque.
Or, les paris sportifs sont plus addictifs que les paris classiques. Pourquoi cela, Isabelle Falque-Pirotin ?
Parce qu'ils présentent les caractéristiques dont on a parlé, c'est-à-dire l'assimilation avec le monde du sport qui est très attractif pour les jeunes, le côté accessibilité permanente. Donc, en gros, le taux, je dirais, d'addiction est 6 fois supérieur à un pari de loterie. Voyez. Donc, si 16% des joueurs tout paris confondu sont considérés comme des joueurs problématiques, c'est 16% en matière de paris sportifs. Donc, il y a moins de joueurs en paris sportifs qu'en loterie, mais en revanche, le pari lui-même est plus addictif, il est plus frémissant, il est plus excitant.
Et parmi les risques, il y a évidemment l'addiction et puis il y a le surendettement, Marie Trespech.
Oui, on sait que les joueurs qui rentrent dans des spirales de surjeu, de jeux intensifs, donc sont un peu moins diplômés que la moyenne, travaillent un peu moins que la moyenne des parieurs. Et c'est vrai que rentrer dans ces logiques-là, c'est à la fois jouer de plus en plus souvent, c'est-à-dire jouer tous les jours et plusieurs fois par jour, et c'est de jouer de plus en plus d'argent à mesure que l'on joue. Et donc, plus on joue, plus on rejoue, et on remise, et on cherche à se refaire, hein, comme on dit au casino. Et évidemment, ça mène à des logiques d'appauvrissement, de détresse sociale, avec des gens qui doivent se tourner vers leurs proches parce qu'ils sont surendettés. C'est catastrophique parfois.
Je me rappelle que sur un site, j'avais peut-être pendant une semaine, j'avais beaucoup joué. Et j'avais vu, j'avais joué 500 euros dans la semaine. Et c'est là où tu te rends compte que ça va très très vite. Et au fil et à mesure, à un moment, tellement j'ai perdu d'argent, j'ai commencé à m'auto-exclure des sites. En fait, quand on s'inscrit sur un site de paris sportif, il faut le savoir, Dès le début, ils te disent que tu choisis tes restrictions de jeu. Exemple, au bout de 1000 euros de jouer, tu n'as plus le droit de jouer. Donc tu peux t'auto-exclure pendant 1 an, 2 ans, auto-exclure à vie, fermer ton compte en gros. Et j'ai fait ça, j'en avais laissé qu'un, car en vrai, il y avait trop d'envie, comme dans les sites de Paris Sportifs, des fois il y a des offres. D'un coup, ils disent, misez 20 euros, on va vous donner 10 euros. Donc des fois, à la base, t'es venu juste pour regarder les feuilles de match, et après, ça t'incite à jouer. Et sur l'autre site, c'est pareil. Et tu te retrouves avec 80 euros joués, d'un coup.
Voilà un extrait, des extraits d'un épisode des Pieds sur Terre sur France Culture. Qu'est-ce que cela vous inspire, Pierre Rondeau?
Ça m'inspire que c'est similaire en termes de marketing, si on peut parler de marketing, du marketing de la drogue. Je veux dire, qu'on appelle communément la technique de dealer. La technique du dealer, c'est de donner gratuitement le bien vendu. Et parce qu'il provoque de la dépendance, le consommateur ayant acquis ce bien gratuitement serait incité derrière à en racheter. Et on en parlait tout à l'heure, quand beaucoup d'opérateurs, je crois que maintenant c'est interdit, mais quand beaucoup d'opérateurs donner 100 euros, 200 euros, 300 euros pour un premier compte actif, pour donner envie aux joueurs de jouer et ensuite il était pris dans cette boucle infernale de l'addiction, c'est vraiment ce que j'appelle communément une technique de dealer. C'est donner envie aux joueurs gratuitement pour qu'ils continuent.
Isabelle Falque-Pirotin ?
Mais je crois que sans aller jusqu'à la notion de drogue, en tout cas ce qui est sûr, c'est que le secteur des jeux d'argent a mobilisé tous les outils du marketing numérique qui existent sur Facebook, de captation de l'attention, au profit de l'attraction du joueur. Donc, dès que vous avez un compte, vous êtes bombardé, entre guillemets, de notifications. Tu n'as pas joué depuis un mois, tu n'as pas joué depuis une heure. Regarde donc ce nouveau jeu qui existe. Et ça, tout opérateur confondu. Il y a effectivement les bonus de bienvenue, ce dont vous parliez il y a un instant, ou les bonus de fidélisation, c'est-à-dire les grands joueurs, en fait, on leur renvoie de l'argent. Et il y a une opacité assez forte sur le statut exact de ces bonus. Est-ce que c'est de l'argent frais ou est-ce que c'est en réalité un remboursement d'un premier prêt, d'un premier gain? Donc en réalité, tout ça est assez obscur et l'idée générale, c'est de garder le joueur dans l'environnement de jeu et en permanence de le ressolliciter. Donc ça fait des dégâts et les Anglais ont fait une étude récemment qui montre que pour un joueur addict, il y a 6 personnes impactées. 6 personnes, c'est-à-dire la famille, troubles familiaux, les difficultés scolaires, le surendettement, qui peut aller jusqu'à pousser des gens à s'endetter auprès de dealers. Enfin, ça peut aller très très loin. Hein.
Et est-ce que les joueurs peuvent être d'autant plus, justement, comme vous dites, bombardés de notifications, qu'ils ont un profil plus vulnérable, Marie Trespeuch?
Le problème, c'est que pour les opérateurs, ces joueurs leur permettent de gagner beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la grande difficulté. Hein. Si vous ne désactivez pas les notifications, si vous ne vous protégez pas numériquement de toutes ces sollicitations, le jeu va être omniprésent, en fait. Hein. Dès lors que vous avez un smartphone, vous serez encouragé en permanence à jouer. Effectivement, quand on est fragile, qu'on travaille moins, qu'on a des revenus qui diminuent progressivement, ça met ces personnes-là véritablement en danger.
Et alors, qu'est-ce qui peut être mis en place,
alors,
Isabelle Falque-Pirotin ?
Ce qui est intéressant, c'est effectivement le propos de Marie qui dit l'économie repose beaucoup sur ces joueurs excessifs. C'est tout à fait vrai et en moyenne, le chiffre d'affaires du secteur est fait à 20% sur les joueurs excessifs. Et en matière de paris sportifs, c'est probablement plus. Donc nous, notre objectif au bout de 3 ans de régulation, c'est véritablement de désintensifier le marché. C'est-à-dire de dire, il faut que le chiffre d'affaires des opérateurs de jeux d'argent ne se fasse pas exclusivement ou principalement à partir de ces joueurs excessifs. Et donc, ils ont une obligation nouvelle qui est liée à la loi de 2019, qui est d'identifier et d'accompagner les joueurs excessifs. On a passé quelques temps à expliquer dans quelles conditions cette obligation légale devait être mise en œuvre. Maintenant, il y a tous les outils pédagogiques. Qu'ils ont développé des algorithmes permettant de repérer ces joueurs excessifs. Et à partir de là, on entre dans une stratégie de contrôle pour être sûr que les opérateurs vont le faire. Et donc le but, c'est vraiment de dire le jeu d'argent ne peut pas faire son business, passez-moi l'expression, à partir exclusivement de joueurs excessifs.
Pierre Rondeau.
Non, mais ce qui est paradoxal, et là, est-ce qu'on pourrait ensuite dériver vers une question de des conséquences du système capitaliste mercantile, mais c'est de se dire que, comme je reprends vos propos, c'est les opérateurs sont incités, comme n'importe quelle entreprise à but de lucrativité, sont incités à augmenter leur produit brut, leur chiffre d'affaires, tout en réduisant le nombre de joueurs excessifs. Autrement dit, pour continuer à gagner de l'argent et maintenir une croissance, il faut avoir plus de joueurs actifs de façon moins excessive, mais donc augmenter le panel de joueurs. Et donc, si on veut augmenter le panel de joueurs pour continuer à avoir cette croissance infinie qui montrait jusqu'au ciel, il faut augmenter sa captation d'attention, il faut augmenter son positionnement sur le marché, il faut augmenter et diversifier son marketing. Donc, c'est un schéma sans fin, parce que soit on se base sur les joueurs excessifs et c'est inquiétant pour des conséquences sociales et sociétales, soit on va élargir le panel et avoir plus de joueurs actifs, modérés mais actifs, et donc pour avoir plus de joueurs, il faut aussi augmenter le marketing, la publicité et le positionnement d'attention.
Isabelle, vous avez raison, mais il y a quand même beaucoup de gens qui jouent tranquillement.
Bien sûr.
Donc, ce que je veux dire, on peut imaginer un marché des jeux d'argent. 4,5 millions de comptes actifs. Et il y a 25 millions de joueurs de la FDJ, de la Française des Jeux. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est de désintensifier, donc de diminuer la population des joueurs excessifs, mais effectivement, peut-être d'élargir un tout petit peu pour compenser le manque à gagner financier de la part des opérateurs, élargir un tout petit peu la base de joueurs.
France Culture.
La petite bête, elle est toujours là. Hein. Et si je viens encore en réunion, c'est que je jouerai qu'elle parte définitivement. Et cette petite bête, bah, c'est l'envie de jouer, c'est agaçant.
Entendez-vous l'écho?
Ce petit pchit d'adrénaline que vous avez là, vous savez, chaque fois que vous gagnez, c'est une grande victoire, mais en vérité, c'est pathétique. Mais ça faisait partie du personnage que j'étais. Hein.
Tiphaine de Roquigny.
Nous continuons à parler de cette économie des paris sportifs en ligne avec Isabelle Falque-Pirotin, Marie Trespeuch et Pierre Rondeau. Alors, parmi les risques que comportent ces paris sportifs, on a évoqué l'addiction, le surendettement, et puis il y a aussi la tricherie, la corruption, dans la mesure où les enjeux financiers sont considérables. Peut-être que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler cette affaire Nikolaï Davydenko de 2007, Pierre Rondeau, ce champion de tennis qui avait été accusé d'avoir perdu volontairement un match alors que des sommes très importantes étaient justement misées sur sa défaite.
Alors c'est toute la particularité qu'il y a dans certains sports et même au-delà des sports, dans certaines divisions, c'est que, alors là en l'occurrence en tennis, c'est que dans la mesure où en tennis vous avez beaucoup, 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 beaucoup de rencontres et bien plus qu'en football et beaucoup, beaucoup plus de points qu'il n'y en a en football, il est beaucoup plus facile de parier et de parier de façon obscure et opaque via des opérateurs illégaux dans une économie souterraine totalement illégale. Et donc, c'est incité à ce qu'effectivement des joueurs comme Davydenko soient amenés à tricher en échange de gains monétaires. Si vous voulez, en gros, c'est de se dire que les paris sportifs portent sur toutes les disciplines et tous les sports. Qu'il s'agisse de matchs de Ligue des Champions vus par des centaines de millions de personnes sur Terre, comme des matchs de tennis de second rang, des matchs de challenger vus par 300-400 personnes. Et vous pouvez miser là-dessus, vous pouvez parier sur ce genre de rencontres qui, pour en termes de gains monétaires pour les joueurs directement, sont minimes, sont risibles. Un tournoi de challenger en tennis, pour un joueur professionnel, c'est moins de 10 000 dollars, donc c'est très peu par rapport à ce qu'il a dépensé, ce qu'il a investi pour pouvoir aller à ce tournoi-là et y participer, ce qu'il a consenti comme investissement pour y participer. Donc si derrière on lui dit qu'un opérateur chinois va mettre un pari sur sa défaite étant le favori, sa cote normalement devrait être très élevée en cas de défaite, on va lui dire tu peux tripler, quadrupler tes gains si tu perds. Parce que étant le favori, allant dans un tournoi de challenger, la cote de la défaite sera extrêmement élevée et donc le gain pour le parieur sera extrêmement élevé. Donc il y a ce genre d'incitation, mais heureusement il y a quand même des vérifications qui sont faites pour éviter ces paris un peu ubuesques et très particulier. Il me semble qu'effectivement il y a un système de vérification algorithmique, qui vérifie la mise et le poids des mises sur des rencontres sportives au prorata du poids économique de la compétition. Et s'il s'avère qu'effectivement on a des paris de plusieurs centaines de milliers d'euros sur des matchs de 4e division slovaque, là, on peut se poser des questions.
Sur les risques de tricherie, Isabelle Falque.
Alors, c'est un enjeu absolument majeur, parce qu'effectivement, si le match est manipulé, le pari perd son intérêt et personne ne le souhaite. Il y a en France un dispositif qui est assez complet pour lutter contre les manipulations sportives, qui se compose en fait de deux parties. Il y a une première partie qui est, on a ce qu'on appelle en France une liste sport. Une liste sport, c'est en fait l'offre de paris sportifs qui est légalement admise en France. En France, on ne peut pas parier sur tous les matchs et pour n'importe quel type de pari. Concrètement, sur un match, en gros, il y a 60 paris en France. Il y en a probablement au Royaume-Uni 150, 200. Donc, on diminue le nombre de matchs sur lesquels on peut parier et on ne prend que les matchs qui présentent quand même des garanties de fiabilité avec une publication des résultats, etc., important. Donc ça, c'est la première premier outil. Le deuxième outil, c'est qu'on a ce qu'on appelle une plateforme de lutte contre les manipulations sportives qui regroupe l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par le problème. Donc, les opérateurs, la Française des Jeux, les opérateurs de jeux online, et puis le service central des courses et jeux, les autorités publiques qui sont actives sur le sujet. Et nous échangeons au sein de cette plateforme les informations sur des atypismes de cotes sur un pari, sur un match ou sur un autre. Et si, au sein de la plateforme, laquelle est en relation avec des plateformes internationales, il y en a une quarantaine qui existent en Europe, s'il s'avère qu'il y a des indices concordants sur un match, en considérant que ce match, visiblement, n'est pas très sain, à ce moment-là, moi, en tant que présidente de l'ANJ, je peux suspendre les paris sur le match. Concrètement, depuis 2020, j'ai dû suspendre 4 ou 5 paris sur des matchs. Donc, en fait, c'est un dispositif qui est très performant, qui a d'ailleurs été récemment légalisé, enfin reconnu par la loi de 2022. Donc, je crois que, bon, c'est pas une garantie à 100%, mais en tout cas, ça nous préserve quand même pas mal des manipulations sportives en France.
Alors, il y a eu cette volonté depuis l'ouverture à la concurrence des paris sportifs de mieux réguler, mieux encadrer ce marché. En 2010, ça a été créé l'autorité de régulation des jeux en ligne Argel, qui est devenue l'ANJ en 2020, que vous dirigez aujourd'hui, Isabelle Falque-Pirotin. On a parlé de cette volonté de mieux encadrer la publicité, de cet engagement des annonceurs et des médias en faveur d'une réduction de la pression publicitaire. Il y a aussi la possibilité de mieux réguler le secteur à travers les taxations. Elles existent aujourd'hui. Pierre Rondeau, là encore, on pourrait peut-être aller plus loin.
Alors, aller plus loin, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que le lien entre régulation et taxation, je ne sais pas s'il peut être fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'existence de ces opérateurs légaux permet effectivement la captation des taxes affectées pour le financement du sport. Je rappelle que donc vous avez l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, qui est financée via trois taxes affectées, taxe sur les droits TV, taxe sur les jeux de hasard et taxe sur les paris sportifs. Effectivement, l'existence de ces opérateurs et de la légalisation et l'ouverture à la concurrence des paris sportifs permet, par ces taxes et cette taxation, de financer, de subventionner, de subvenir aux besoins du financement du sport amateur et du sport d'élite. Donc voilà, c'est toute la question qu'il peut avoir, le paradoxe qu'il peut avoir sur la demande de régulation, voire d'interdiction, mais qui pourrait porter atteinte à la demande effectivement de financement. Parce que vous avez l'existence des opérateurs et la légalisation des paris sportifs, vous avez, on l'a dit aussi pour les diffuseurs via la publicité, mais vous avez aussi via la présence des opérateurs, le financement de l'ANS, le financement du sport amateur et du sport d'élite. Donc c'est utile. Par exemple, vous avez le rendement des trois taxes affectées en France, c'est plus de 320 millions d'euros par an, avec un plafonnement. Donc on pourrait débattre sur ce plafonnement, sur la taxe sur les paris sportifs, plafonné à hauteur de 35 millions d'euros, le reste étant apporté par l'État. Mais en tout cas, je ne sais pas si trop de régulation, trop d'interdiction ne porterait pas atteinte aux besoins de financement du sport amateur.
En novembre 2022, des sénateurs et des députés ont demandé qu'une plus large part, voire la totalité des taxes prélevées par l'État sur les recettes des jeux et des paris sportifs alimentent justement le budget de l'Agence nationale du sport. Qu'est-ce que vous en pensez ?
En gros, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez donc la taxe affectée sur les paris sportifs pour le PLF 2023, donc pour le rendement 2022, avait récolté de 181 millions d'euros via la taxe affectée. Et sur ces 180 millions d'euros, il y avait un plafonnement à 34 millions d'euros pour directement l'ANS, donc directement fléché vers l'ANS, l'Agence nationale du sport, le reste étant prélevé directement par le budget de l'État. Et c'est l'État, donc après une décision politique et un vote au Parlement à travers le PLF, le projet de loi de finances, qui décidait d'allouer à l'ANS un budget total de 460 millions d'euros. Ce que demandent les sénateurs, c'est un débat politique qu'on peut avoir, ce que demandent les sénateurs, c'est que finalement le sport finance le sport, qu'il y a un déplafonnement de la taxe, que les 180 millions d'euros de la taxe affectée sur les paris sportifs aillent directement à l'ANS sans que l'ANS soit dépendant d'une décision politique. En gros, ce qu'il dit, c'est que là, vous avez par exemple, c'est vrai que le gouvernement actuel fait beaucoup pour le sport. Là-dessus, c'est indéniable. On était sur un budget dédié au sport et auprès du ministère des Sports en 2016 sous François Hollande à 480 millions d'euros. Il est aujourd'hui, le ministère des Sports, 1,2 milliard. Alors, décision politique, c'est un vote du Parlement, c'est un vote de l'Assemblée qui décide de donner et d'accorder 1,2 milliard au sport. Mais ce que demandent ces sénateurs de déplafonner, c'est qu'on sorte d'une dépendance politique, mais qu'il y ait une dépendance sportive.
Voilà, oui, c'est de sanctuariser, effectivement.
De sanctuariser, mais là, le souci, c'est que si vous avez derrière une régulation et diminution des paris sportifs, le risque, c'est aussi une diminution du budget de l'ANS.
On arrive à la fin de cette discussion. Un mot de conclusion, Isabelle Falque-Perrotin, sur ce marché du pari sportif, dont on a vu qu'il était florissant, mais qu'il fallait sans doute l'encadrer toujours plus, toujours mieux.
Alors, je dirais, c'est pas un vœu théorique. C'est plutôt, je dirais, le constat de 3 ans de régulation de l'ANJ, au terme de laquelle on se dit, si l'on veut véritablement protéger les joueurs, il faut faire plus et probablement ajuster le droit, parce que les outils légaux qui sont à notre disposition ne sont pas entièrement satisfaisants. Je vous donne un exemple. On peut, et ça a été dit à plusieurs reprises, on peut parier quand on veut, etc. Au Royaume-Uni, il est interdit de parier 5 minutes avant le match, pendant le match, 5 minutes après le match. Whistle to whistle ban. En France, aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place ce type de disposition, sauf à modifier la loi. La tranche d'âge 18-24 ans est une tranche d'âge qui nous paraît, nous, particulièrement vulnérable. Je crois qu'il serait intéressant de pouvoir avoir, par exemple, un plafond de pertes pour les 18-24 ans. Aujourd'hui, en tant que régulateur, moi, je n'ai pas la capacité juridique de l'imposer aux opérateurs. Donc, si vous voulez, je pense qu'il manque ici ou là un certain nombre d'outils qui seraient quand même extrêmement précieux pour faire en sorte que le marché continue de se développer. Il ne s'agit pas d'interrompre la croissance du marché, mais de faire en sorte qu'elle soit moins ciblée sur les joueurs excessifs et donc qu'elle limite les effets négatifs qui lui sont liés.
Marie Trespel, sur les façons de mieux protéger les joueurs, effectivement, en guise de conclusion.
Oui, je crois qu'on a un peu perdu en cours de route quand même depuis 14 ans l'esprit initial de la loi de 2010, qui était une loi qui était faite pour protéger les joueurs. C'était vraiment dans le préambule de la loi. Et ce que dit Madame Perrotin est très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous faut davantage de moyens législatifs pour pouvoir mieux réguler ce marché. Et moi, de mon point de vue aussi, on manque à la fois d'outils peut-être législatifs, mais aussi de recherche. Et c'est vrai qu'en sciences sociales, en sciences humaines, aujourd'hui, on aurait besoin d'avoir un peu plus peut-être d'enquêtes, d'études sur les trajectoires des joueurs, des parieurs en particulier. Et ça, pour le moment, c'est encore un peu une carence.
Pierre Rondeau.
Oui, non, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Même sur le profil académique, il faut qu'il y ait un renforcement des études qui soient faites tant sur le profil sociologique, psychologique, ethnographique du joueur en question, du parieur. On parlait tout à l'heure qu'il y a un profil sociologique, mais c'est uniquement à partir de sondages qu'on arrive à développer ce portrait robot. Mais si on avait vraiment des travaux académiques sur qui sont ces joueurs, on pourrait effectivement derrière prendre des mesures plus pertinentes sur la régulation, le contrôle et la lutte contre les effets de dépendance.
Merci beaucoup. Un tout dernier mot, Isabelle Falque-Perrotin.
Je veux juste apporter mon total soutien aux besoins d'études supplémentaires. Il nous faut une boussole. La dernière boussole de prévalence, elle date de 2019. On est en 2024 et on n'a pas de nouvelle étude.
Eh bien, le message est passé. Un grand, grand merci à tous les trois. Marie Trespeuche, Pierre Rondeau, Isabelle Falque-Perrotin d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé sur ces enjeux qui sont absolument essentiels. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage. Pierre Rondeau, c'est Le Grand Foutoir, les dérives du football, raconté en 15 matchs aux éditions Solar. Un immense merci encore. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro. Nogi grzały za mocno, ciało kamienne poso. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Nikt już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak mantry, powtarzałem do skutku. Później przyszła tornado, przez jesień tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się?
Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks.
La fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Nowy Świat, le nouveau titre du groupe polonais The Calls. Demain, de Macao à Las Vegas, comment les casinos transforment-ils l'économie locale? Nous en parlerons avec Guillaume Vallée et Jeanne Maud Jarton. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.